Salut, c'est Jérémy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, suite au livre que vous avez reçu, Offrez-vous une vie de voyage, vous avez constaté que je vous ai envoyé pas mal de messages pour vous donner d'autres idées, pour vous poser des questions sur ce qui vous a plu et ce qui vous tenterait de réaliser une fois que vous serez parti. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ce qui a concerné en particulier tout ce qui est entreprise dématérialisée. C'est vraiment ce qui a retenu votre attention et je dois bien vous avouer que c'est moi ce que je trouve aussi le plus intéressant, pour une simple raison, c'est que vos revenus vous suivent partout. Quand on a sa propre entreprise, on peut décider de quitter du jour au lendemain, de quitter la ville où on se trouve, le pays où on se trouve, pour aller partir ailleurs. On n'a pas besoin de démissionner du boulot dans lequel on est, d'en retrouver un autre, donc d'en s'engager dans des démarches qui peuvent parfois être un peu laborieuses, de recherche d'emploi dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Hein, parce que là, imaginons qu'aujourd'hui vous bossiez, que vous fassiez la plonge dans un restaurant, on va dire n'importe où, au Japon par exemple, vous avez trouvé un boulot au Japon, vous avez envie d'aller découvrir la Chine, ça veut dire que si vous devez à nouveau retrouver un boulot pour faire la plonge en Chine, il va falloir commencer par faire des démarches dans les restaurants, déposer un CV, passer des entretiens, passer des tests, et enfin avoir votre boulot. Et ça peut prendre, ça va prendre peut-être une semaine, deux semaines, pas souvent beaucoup plus, mais c'est quand même du temps perdu, où au lieu de visiter le pays, ou au lieu de travailler, vous allez devoir toquer aux portes et demander des entretiens. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la solution la plus marrante, même si c'est une solution qui fonctionne. Moi, encore une fois, hein, j'ai croisé énormément de voyageurs qui font ça, qui financent leur trip comme ça, beaucoup plus d'ailleurs qui font ça que ceux qui font une entreprise en ligne. Parce que c'est la facilité. C'est pas forcément la facilité dans le sens où moi je trouve ça galère, je trouve ça contraignant, je trouve que pour ma part, hein, en fonction des compétences et de mon ressenti, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de me lancer dans un nouveau business sur internet plutôt que d'aller toquer aux portes pour demander des entretiens. Mais c'est une question de personnalité, je suis quelqu'un de très indépendant, j'arriverai probablement pas à retrouver un boulot de salarié parce que je pense que je m'auto-saboterai dès le premier entretien si on me demandait si je suis prêt à donner corps et âme pour la nouvelle entreprise, alors que c'est pas le cas du tout. Moi je préfère travailler sur mes projets. Et d'après ce que j'ai constaté dans les emails que vous m'avez envoyés suite au message que moi je vous ai envoyé, beaucoup de personnes sont comme moi, donc sont dans l'état d'esprit, dans un état d'esprit très indépendant, et il y en a beaucoup parmi vous qui veulent monter leur entreprise dématérialisée. Donc je vous ai créé ce document audio exprès pour ça, pour vous donner des pistes. On va voir 5 modèles économiques pour monter un blog de voyage. Je parle de blog de voyage pour une raison simple, c'est parce que vous êtes tous passionnés de voyage comme moi et que du coup ça va être très parlant pour tout le monde. Mais les modèles économiques que je vais donner sont adaptables si vous voulez lancer un blog dans la mode, dans la cuisine, dans n'importe quoi d'autre, évidemment. Hein. Là c'est vraiment pour prendre un exemple sur lequel on va tous se retrouver sur les voyages. Donc je le disais, je vais vous parler des modèles économiques pour un blog de voyage. Je vais vous donner aussi des exemples d'autres types d'entreprises en ligne qui ne sont pas liées à un blog, mais que vous pouvez tout de même gérer uniquement en ligne, donc de manière totalement dématérialisée et conserver 100% d'indépendance, hein, contrairement à un boulot de salarié que vous allez déplacer de pays en pays. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai 1, 2, 3, 4, 5 principes pour vraiment devenir libre. Donc il y a du pain sur la planche, on va pouvoir commencer maintenant. Alors tout d'abord, ce que je disais par rapport au blog, je le disais aussi dans le livre, c'est que c'est pas forcément ce que je recommande, parce que ça va demander énormément de... Alors d'abord, ça va demander, c'est dur à amorcer en fait, si vous voulez. Pour lancer un blog, c'est très dur à amorcer. Créer le blog, c'est pas difficile, écrire des articles de blog, c'est pas difficile. Si vous êtes relativement à l'aise à l'écrit, c'est pas très difficile. Et puis sinon, vous allez faire des vidéos ou des podcasts audio, donc ça change pas grand-chose. Ce qui est très dur en réalité, c'est d'amorcer le trafic sur le blog et d'amorcer la pompe, si vous voulez, pour gagner votre vie avec. Il va se passer énormément de temps entre le moment où vous allez avoir lancé le blog et le moment où vous allez toucher vos premiers revenus avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nécessite beaucoup de compétences. Ça va nécessiter des compétences en rédaction, bien sûr, parce qu'il faut savoir écrire. Ça va nécessiter des compétences en administration de site internet. Donc il faut connaître, pas forcément grand-chose, mais il faut s'y connaître quand même un petit peu en code, alors PHP, HTML, etc. Il faut s'y connaître avec WordPress, hein, qui est aujourd'hui la meilleure plateforme pour créer son blog. Il faut savoir gérer quelques petits machins techniques comme ça, un peu galère. Il faut être pas trop mauvais en design, en graphisme, sinon vous allez avoir un blog tout moche. Il faut être pas trop mauvais en marketing non plus pour pouvoir trouver des clients à un moment donné. Il faut avoir des compétences en référencement pour que votre site soit présent sur Google et que vous ayez du trafic sur votre site, etc. etc. Donc ça, ce sont les deux raisons qui font que c'est pas, je recommanderais pas forcément à quelqu'un de se lancer dans l'aventure d'un blog pour gagner sa vie sur Internet, parce que c'est extrêmement contraignant, c'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, et surtout ça peut être très décourageant si vous vous apercevez qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous avez toujours rien gagné, vous avez gagné des clopinettes avec votre blog, et malheureusement c'est ce qui arrive avec beaucoup de gens qui sont déçus. Je sais pas si vous le savez, mais il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il y a eu une mode qui a eu lieu sur Internet. C'était ça, c'était voilà, gagner votre vie sur Internet, devenez millionnaire sans rien foutre. Enfin voilà, moi je trouvais ça affligeant de conneries, si vous me passez l'expression, parce que c'est impossible quoi. Quand on monte une boîte, que ça soit un blog ou autre chose, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de compétences, et si effectivement on arrive à devenir millionnaire avec, ce qui est très très rare, mais ça arrive, hein. Il y a des gars, le mec qui a lancé Facebook, Zuckerberg, il est devenu millionnaire, donc c'en est un parmi des millions et des millions de personnes qui se lancent, mais c'est possible. Mais ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup d'investissement, donc c'est pas forcément le plus simple, et c'est pas forcément à la portée de tout le monde, compte tenu du nombre de compétences qui est demandé pour avoir un blog qui fonctionne. Bon voilà, alors ça c'était la petite mise en garde, la petite partie un petit peu déprimante, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner les pistes, je vais vous donner les conseils basé sur mon expérience pour que vous puissiez vous aussi vous en sortir, parce qu'il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas, hein. C'est pas ça demande pas un talent de dingue quoi. Vous n'avez pas besoin d'être un pro de l'écriture, vous n'avez pas besoin d'être le nouveau Marc Lévy pour gagner votre vie avec un blog, si c'est ce que vous voulez faire. Donc je vais vous donner dans un instant 5 modèles économiques pour vivre de votre blog, mais avant ça je voulais juste vous partager mon expérience perso avec Road Calls. Donc Road Calls, c'est mon blog de voyage que vous connaissez forcément. Il y a eu deux périodes avec Road Calls. La première période, alors je vous fais un petit historique très rapide. Road Calls, je l'ai monté quand j'étais en Suède à l'été 2012, simplement parce que j'avais la flemme d'envoyer des emails à toute ma famille, à tous mes potes, et de personnaliser un petit peu chaque email pour pas qu'ils aient l'impression de recevoir un copier-coller. Alors je me suis dit, le plus simple c'est quoi? C'est de faire un blog, d'écrire mes anecdotes dessus. Et d'ailleurs, si vous allez lire les tout premiers articles du blog, c'est vraiment des articles, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi, ce que j'ai fait, enfin voilà, c'était truc hyper simple, hyper basique, que je diffusais sur Facebook et que j'envoyais juste le lien par mail à mes parents, à mes amis, etc., pour les tenir au courant de ce qui se passait dans ma vie. Ça, c'était à l'été 2012. Et ce qui s'est passé ensuite, donc je suis parti en Espagne dans la foulée, et au bout de, quelques semaines en Espagne, j'ai reçu un premier mail d'un gars qui m'a demandé combien c'était pour annoncer sur mon blog. Alors moi, j'ai complètement halluciné, parce qu'à cette époque-là, j'avais absolument pas l'intention de gagner le moindre centime avec Road Call. C'était vraiment pour le plaisir de partager mes voyages, de partager mon expérience. Et voilà, il y a cette demande qui arrive dans ma messagerie, et j'ai répondu un peu au pif. Je lui dis, écoutez, si vous voulez un article avec un lien, ça va être 50€. Le gars, il a accepté direct, et je me suis dit, c'est cool, c'est pas très compliqué, j'ai juste à écrire un article sur un sujet que je connais très bien, parce que le gars me demandait un article sur l'Espagne, j'y étais, et j'ai gagné 50€. Donc j'ai trouvé ça très facile, mais j'ai pas insisté direct. Il s'est repassé encore une ou deux semaines, et j'ai reçu une autre demande d'une autre entreprise pour écrire un article comme ça, ce qu'on appelle un article sponsorisé. Donc j'ai accepté, et ainsi de suite. J'en ai eu quelques-uns comme ça jusque fin 2012, début 2013, où là vraiment je me suis dit, merde, il y a quelque chose à faire quoi. Je suis sûr que si je pousse un petit peu le truc, que je professionnalise le site, le blog, je vais pouvoir gagner un petit peu plus et financer mes voyages avec Road Calls. Parce qu'à l'époque, je finançais mes voyages en étant attaché de presse indépendant, et c'est pas le boulot de mes rêves, pas du tout. Je faisais ça parce qu'il fallait bien que je mange, et voilà, j'avais pas forcément envie de faire ça pendant une éternité, et j'ai vu l'opportunité s'ouvrir devant moi. Je me suis dit, waouh, attends, si je peux gagner ma vie avec mon blog de voyage, je préfère mille fois ça plutôt que en écrivant des communiqués de presse ou des dossiers de presse pour des entreprises, de fabricants de rideaux, de salles de bain ou ce genre de trucs. Donc voilà, donc je me suis lancé à partir de fin 2012, début 2013, J'ai vraiment professionnalisé mon approche sur Roadcalls et c'est là que j'ai eu beaucoup d'articles sponsorisés parce que j'ai fait des démarches auprès des agences, de ce qu'on appelle des agences de référencement, donc des agences publicitaires en gros qui vont mettre en lien les annonceurs hein, et les blogueurs de voyage dont je faisais partie, dont je fais toujours partie d'ailleurs. Et du coup, j'ai gagné ma vie avec Roadcalls grâce aux articles sponsorisés entre, grosso modo, on va dire, pendant un an à peu près, entre fin 2012, début 2013 et début d'année 2014. À cette époque-là, j'arrivais à générer à peu près entre 5 et 700 euros par mois parce que je facturais entre, grosso modo, 80 et 200 euros l'article. Donc, il me suffisait d'un article par semaine, un article sponsorisé par semaine pour gagner ma vie. C'était très suffisant pour les pays où j'étais parce que 2013, j'étais en Italie, j'étais en Europe de l'Est, j'étais dans des pays vraiment à bas coût, à part en fin d'année où je suis retourné, j'étais au Canada et aux États-Unis où là, ça me coûtait plus cher. Mais comme j'avais pu mettre de l'argent de côté en début d'année, j'ai pu compenser avec la fin d'année. Donc à cette époque-là, c'était très bien. Sauf que début d'année 2014, ce modèle économique-là, il s'est complètement effondré pour moi et pour quasiment l'intégralité des blogueurs voyage que je connaisse, parce que Google a complètement changé son algorithme et ils ont fait en sorte que tous les articles et que tous les liens sponsorisés comme ça soient pénalisés. Ce qui fait que les annonceurs de l'époque ne pouvaient plus, enfin n'avaient plus aucun intérêt à payer des blogueurs pour qu'il y ait des articles avec des liens vers leur site dedans, parce que ça n'avait plus aucun intérêt pour eux vu que c'était pénalisé. Donc c'était néfaste au lieu d'être positif. Ce qui fait qu'à cette époque-là, du jour au lendemain, j'ai plus aucune demande pour des articles sponsorisés. Toutes moi, les demandes que j'envoyais j'avais des refus. Toutes les demandes que j'ai faites étaient refusées. J'ai eu que des réponses négatives. Et à partir de là, je me suis dit bon ben, il faut absolument que je compense avec autre chose si je veux continuer avec Roadcalls. Et comme au départ, mon kiff, moi, c'est l'écriture, je me suis dit, je vais relancer mon guide de voyage et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Parce que je crois que c'était en mai ou en avril 2013, j'avais publié le livre Offrez-vous une vie de voyage que j'avais écrit au départ pour gagner ma vie, bien sûr, mais aussi surtout pour le plaisir, parce que ça me frustrait de recevoir autant de messages de lecteurs qui me disaient, mais j'aimerais bien moi aussi pouvoir partir sur la route, j'aimerais bien, mais j'ose pas, je peux pas, je sais pas comment faire pour financer le trip. Alors que pendant mon voyage, moi, j'avais rencontré des tas de gens qui vivaient comme ça en faisant des petits boulots à droite à gauche et qui vivaient sur la route réellement. Et donc j'avais écrit ce livre-là, donc je crois qu'il est sorti en mai 2013. Et jusqu'à début 2014, j'avais vraiment pas du tout forcé sur la promotion. J'avais écrit ça, et puis du coup, quand quelqu'un m'écrivait un mail pour me demander des conseils sur comment gagner sa vie en voyage, je le redirigeais vers le livre. Mais à l'époque, j'avais vraiment pas eu de stratégie marketing, etc., pour faire connaître ce livre et pour gagner ma vie avec. Hein. À l'époque, je gagnais peut-être 50 euros par mois avec le bouquin, et c'est tout, quoi, pas plus. À partir de début 2014, là par contre, j'ai vraiment professionnalisé mon approche par rapport au livre, et j'ai mis toute une stratégie en place pour augmenter mes ventes et pour compenser ce que j'ai perdu par rapport aux articles sponsorisés, pour le compenser avec le livre. Et aujourd'hui, je fais en moyenne 500 euros par mois de vente avec le livre « Offrez-vous une vie de voyage ». Parfois un peu moins, parfois un peu plus, sachant que c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, parce que j'ai des partenaires qui font la promotion du livre, à qui je reverse une commission quand une vente est effectuée, quand quelqu'un passe par leur site. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé quand vous avez acheté mon livre, vous êtes peut-être passé par un blog de quelqu'un d'autre, hein. J'ai beaucoup de blogs dans la blogosphère française qui sont partenaires de Roadcalls et qui vont toucher une commission chaque fois que quelqu'un achète mon livre à travers leur lien. Donc peut-être c'est ce qui s'est passé pour vous. Voilà, simplement pour vous dire que où j'en suis aujourd'hui, c'est ça. C'est que maintenant, mon modèle économique, c'est la vente de mon livre sur Roadcalls. Et c'est plus du tout les articles sponsorisés qui fonctionnent beaucoup moins. Même si ça commence un petit peu à repartir de manière un petit peu détournée, les annonceurs et les agences qui travaillent sur Google, donc les référenceurs, hein, ce qu'on appelle les agences SEO pour Search Engine Optimization, donc les agences de référencement, ils ont travaillé, ils ont étudié les algorithmes de Google pour contourner. Donc ça revient un petit peu, et puis d'ici un an, Google va retout changer parce qu'ils se sont aperçus que des gens ont contourné leur loi, donc Google va tout bouleverser et ainsi de suite. Voilà. On est parti pour une dizaine d'années comme ça, à mon avis. Donc ça revient un petit peu, mais je vais vraiment plus baser mon entreprise sur ce système-là, parce que c'est assez peu fiable aujourd'hui. Voilà, ça c'était, j'ai fait beaucoup plus long que prévu, mais c'était la petite partie historique de Roadcalls pour vous expliquer comment je fonctionne aujourd'hui et comment je gagne ma vie. Voilà, ça me tient à cœur d'être vraiment transparent avec vous sur ce sujet-là. Alors, on va parler maintenant des 5 modèles économiques pour un bloc de voyage, moi j'en ai utilisé deux, je viens de vous les énoncer, et il y en a cinq en tout, que je vais vous montrer maintenant. Alors le premier, c'est la publicité toute bête, toute simple. Vous vous inscrivez sur des régies pubs du type Google AdSense, et vous mettez un encart publicitaire sur votre blog, et vous allez avoir de l'argent qui tombe tous les mois grâce à la pub, donc grâce soit au nombre d'affichages, hein, pour chaque visiteur vous allez gagner peut-être 0,01 centime, enfin c'est vraiment une somme très faible à l'affichage, ou alors au clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un visiteur clique sur la pub qui est sur votre site, vous allez gagner un peu plus, là c'est peut-être plus de l'ordre de 5, 10, 15, 20 centimes, en fonction, en fonction de pas mal de choses, en fonction de la concurrence de votre thématique, etc. L'avantage de ce modèle économique, c'est que c'est vraiment très simple, vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous avez votre blog, vous copiez-collez un code HTML à l'endroit où vous voulez faire apparaître la publicité, la publicité elle apparaît là, et basta, vous n'avez rien d'autre à faire. Le gros inconvénient, c'est qu'il vous faut beaucoup de trafic, parce que ça a probablement fait tilt quand je vous ai dit les prix de la publicité comme ça. Gagner 1 centime ou 2 centimes par clic à l'affichage pardon, et une 10-15 centimes par clic, c'est vraiment très, c'est très faible. Et vous allez avoir besoin de beaucoup de visiteurs sur votre site pour avoir beaucoup de clics ou beaucoup d'affichage de la publicité et donc beaucoup de revenus. Enfin au moins allez, je pense que le minimum qu'on puisse viser pour vivre sur la route c'est 300-350 euros par mois si vous voulez vivre en Asie ou en Europe de l'Est, où là vraiment avec 300 euros vous pouvez le faire tranquillement quoi. Voilà, faudra faire gaffe mais ça tient la route sans problème. Donc voilà, le modèle économique numéro 1, c'est la pub. C'est pas forcément ce que je recommande. En plus, petit point négatif supplémentaire, quand un visiteur clique sur votre pub, forcément, il quitte votre site. Donc forcément, vous perdez un visiteur. Voilà. Deuxième chose, deuxième modèle, vous pouvez faire en sorte de sponsoriser votre blog par une marque. Alors ça marche très très bien. Il y a beaucoup de blogueurs, notamment aux États-Unis. Alors je sais pas pourquoi en France on le fait pas. Moi je connais très peu de blogueurs qui le font. Il y en a un, c'est... comment il s'appelle ? Il s'appelle Julien le blogueur. Et il tient un blog sur l'Afrique du Sud. J'ai plus le nom en tête, c'est dommage, j'aurais dû vérifier. Je me rappelle plus. Son blog, son vrai blog à lui, c'est voyageur-indépendant.fr ou .com. Et il a un autre site internet consacré à l'Afrique du Sud, avec lequel il a signé un partenariat avec une marque pour que à chaque fois qu'il y a un visiteur qui arrive sur son site et qui demande des infos sur l'Afrique du Sud, c'est redirigé vers un tour opérateur qui organise donc des voyages organisés en Afrique du Sud et lui il touche une commission à chaque fois. C'est vachement intelligent comme système, ça se fait très très peu en France, je crois que c'est le seul qui doit le faire, je me rappelle pas avoir vu ça ailleurs, alors qu'aux États-Unis ça fonctionne très très bien. Donc l'idée c'est ça, vous avez un blog sur un sujet, alors là lui c'est sur une destination, l'Afrique du Sud, mais ça peut être complètement autre chose, et vous signez un partenariat avec une marque qui va vous rémunérer en fonction de l'activité que vous allez faire. Un autre exemple que vous connaissez très très certainement, mais vous connaissez peut-être pas son modèle économique, c'est Matt de Where the Hell is Matt. Tapez Where the Hell is Matt sur YouTube et vous allez voir la vidéo, vous l'avez probablement déjà vue. Il fait une petite danse aux quatre coins du monde. En fait, il fait le tour du monde depuis je sais pas combien d'années, et à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle destination, il se filme en train de danser, faire une danse un petit peu débile, un petit peu rigolote, et il en fait des vidéos qu'il met sur YouTube, et son voyage, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est sponsorisé par une marque. À la fin de ces vidéos, vous regarderez, il écrit merci à machin truc, et c'est une marque qu'il paye pour faire des vidéos. Parce que le truc, c'est que ces vidéos sont vues des millions de fois, c'est un truc de malade mental. Ce gars, à chaque fois qu'il publie une vidéo, c'est de la folie furieuse. Et non seulement il doit gagner, j'imagine, un petit peu de publicité avec un petit peu d'argent avec les publicités de Google en bas de ses vidéos YouTube, mais en plus, voilà, il est sponsorisé par une marque pour partir danser aux quatre coins de la planète. Je trouve ça absolument génial, et vous pouvez imaginer complètement d'avoir un modèle économique basé là-dessus. Par exemple, je vais dire ce qui me passe par la tête, mais vous pourriez très bien imaginer que vous allez chanter la Marseillaise aux quatre coins de la planète et trouver une marque qui vende des vêtements made in France, par exemple. Qui va faire la publicité, enfin avec qui vous allez signer un partenariat, pour qui vous allez faire une sorte de publicité à la fin des vidéos. Voilà, vous vous filmez en train de chanter la Marseillaise aux quatre coins de la planète, à la fin de la vidéo vous mettez le logo de la marque avec le site internet de la marque, et cette marque-là vous paye une certaine somme tous les mois, peu importe, ou pour chaque vue que vous allez avoir sur YouTube, ou peu importe, pour afficher ces couleurs au sein de votre blog et au sein de vos vidéos. Par exemple, c'est un modèle économique comme un autre, qui fonctionne, à mon avis, qui va fonctionner très très bien dans les années à venir, parce que justement le fait que les articles sponsorisés se soient effondrés, il y a beaucoup de blogueurs voyage qui sont en train de retrouver des boulots salariés parce qu'ils n'ont pas d'autre idée pour comment financer leur voyage avec un blog. Et à mon avis, ce modèle économique là, si vous avez envie de vous lancer avec un blog de voyage ou autre chose, je vous recommande vraiment d'essayer celui-là parce que je crois qu'il a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel. En tout cas, il cartonne aux États-Unis, donc à mon avis, ça va cartonner en France dans les mois ou dans les années qui viennent. Troisième modèle économique, ça va être de faire des critiques de livres ou des critiques de romans de voyage et de toucher des commissions sur les ventes de ces livres ou de ces romans. L'idée, c'est d'utiliser Amazon ou d'utiliser la Fnac. Ils ont des systèmes de partenaires, ce qu'on appelle l'affiliation. Vous allez vous inscrire à ce système de partenariat. Ils vont vous donner un identifiant partenaire. Et vous allez sur votre blog écrire la critique du routard Portugal, par exemple. Alors vous allez dire, ouais, le routard Portugal, c'est sympa parce que blablabla. Par contre, moi, j'aurais plutôt changé ça et ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec telle et telle critique, etc. Et à la fin, vous mettez, vous pouvez commander le guide du routard ici. Vous mettez un joli lien qui redirige vers la page d'Amazon avec votre code partenaire, votre identifiant partenaire. Et à chaque fois que quelqu'un va acheter le livre sur Amazon via votre identifiant, vous allez toucher des commissions comme commission que Amazon va vous envoyer à la fin de chaque mois. Voilà, ça c'est vraiment tout con, ça marche très très bien. En plus, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de visiteurs, contrairement à la publicité. Il suffit que ce soit des visiteurs très ciblés. Hein. Par exemple, si vous voulez, on peut imaginer que par exemple que vous soyez un gros passionné de Lisbonne. Pour continuer sur le Portugal, vous créez un blog sur Lisbonne, vous donnez des tas de conseils pour visiter Lisbonne. Et à la fin de chaque article, ou en haut de chaque article, vous mettez « Acheter le guide du routard Lisbonne », cliquez ici, et le cliquer ici, c'est un lien qui comporte votre identifiant partenaire, et là, ça va cartonner, parce que vous allez avoir peut-être très peu de visiteurs sur votre site, hein, des passionnés de Lisbonne, il n'y en a pas des milliards, je pense, mais ceux qui vont arriver vont vraiment rechercher des conseils sur visiter Lisbonne, et donc ils sont vraiment susceptibles d'acheter le guide du routard spécialisé sur Lisbonne. Donc vous allez toucher des commissions. Voilà, ça c'est un modèle économique aussi, qui est très intelligent, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, il y en a un peu plus que sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec le fait de se faire sponsoriser par une marque, mais ça pareil, c'est un modèle économique qui cartonne, c'est vraiment très simple à mettre en place et ça cartonne. Quatrième modèle économique, ça va être de proposer des visites guidées de lieux où vous vous trouvez. Il y a un blogueur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Earl, ou son blog c'est wanderingearl.com. Il fait ça régulièrement, il organise ce qu'il appelle les Wandering Tours, et tous les 3-4 mois, il va organiser des espèces de tours tours organisés justement avec ses lecteurs, qui le payent hein, forcément, pour visiter un endroit. Alors lui, c'est des endroits qu'il connaît très bien, parce que c'est des endroits où il a vécu. Je sais qu'il fait ça en Roumanie, il fait ça en Inde, et il fait ça, il me semble, au Mexique aussi. Voilà. L'idée c'est, s'il y a un endroit que vous connaissez très bien sur cette planète, ou par exemple un endroit où vous vivez, ou alors où vous pensez que vous allez rester 6 mois, 1 an, vous montez un site internet ou un blog dédié sur ce lieu-là, et un petit peu comme pour Lisbonne tout de suite en fait, sauf que au lieu de mettre des liens vers le site d'Amazon pour toucher des commissions Amazon, vous vendez votre activité de guide touristique, de guide de voyage, appelez ça comme vous voulez. Vous allez vendre des visites guidées du lieu où vous vous trouvez. Et c'est hyper simple. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'en vendre beaucoup pour bien gagner votre vie, parce que forcément, ça, vous allez toucher, pour un client, vous allez toucher beaucoup plus que pour un gars qui va cliquer sur votre pub ou cliquer sur le lien Amazon. Alors, c'est évident, si vous vendez, je sais pas moi, une après-midi avec vous pour visiter Lisbonne, vous la vendez, je sais pas, 50 euros, ça va être beaucoup plus intéressant que si vous touchez 5 euros sur la vente du guide du routard Lisbonne. Voilà. Donc vous n'avez pas forcément besoin de travailler énormément, en tout cas pas forcément besoin d'avoir énormément de clients de vos visites guidées pour gagner votre vie de manière intéressante et vous permettre de visiter. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut quand même connaître très bien l'endroit où vous vous trouvez, sinon vous allez passer pour un charlot, quoi. Si vous vous perdez dans la ville où vous êtes supposé être un guide, mais voilà, ça va pas très bien se passer, les clients vont pas être très contents et votre activité risque de se casser la figure au bout d'un moment. Ça c'est le quatrième modèle économique. Qui est vraiment intéressant aussi. même si encore une fois c'est pas un truc qu'on voit beaucoup sur le en France, et voilà, moi je connais pas de blogueurs français qui font ça. Je connais une Islandaise qui fait ça à Reykjavik, je l'avais rencontrée en Suède justement, ça cartonne, son blog c'est iheartreykjavik.net il me semble, si je dis pas de bêtises, et fait ça, voilà, ça cartonne, et donne plein de conseils dans ses articles sur les les endroits à voir, les choses à faire en Islande, et elle propose des tours aux touristes, et ça marche super bien. Et voilà, vous pouvez faire la même chose dans un endroit que vous connaissez. Et enfin, le cinquième conseil, le cinquième modèle économique, ça va être d'écrire des guides, pourquoi pas, qui peuvent concurrencer le routard. Donc par exemple, pour reprendre le modèle économique où je parlais d'écrire des conseils sur Lisbonne et de mettre un lien à la fin vers le routard Lisbonne sur Amazon, ce que vous pouvez faire, au lieu de toucher simplement 5% du prix de vente que Amazon va vous refiler, c'est carrément d'écrire un guide qui va concurrencer le routard. C'est carrément écrire un guide, un guide de voyage sur une destination spécifique que vous allez vendre sur votre propre site. Moi j'ai pensé à faire ça, j'ai pas été au bout de ma démarche, mais j'ai pensé à le faire sur la Normandie pour des visiteurs anglophones. J'ai créé, vous pouvez aller voir le blog, mon autre domaine existe toujours, c'est normandybylocals.com, et je voulais créer des articles en anglais pour donner des conseils aux Américains et aux Anglais et à tous les touristes internationaux qui parlent anglais pour visiter la Normandie, qui est une région que je connais par cœur parce que c'est chez moi, et leur vendre un petit guide, un espèce de guide vert de la Normandie, mais que j'aurais écrit moi-même avec des conseils, les choses à voir, les choses à éviter, les attrapes touristes, etc. etc. Je me suis arrêté en cours de route parce que écrire en anglais, en fait, je me suis aperçu que c'était très très difficile. Je vais pas dire que je suis bilingue, mais je me débrouille très bien à l'oral en anglais. Simplement à l'écrit, voilà, on peut pas se permettre la moindre faute de grammaire. Je mets beaucoup plus de temps à écrire un article, franchement ça m'a saoulé en fait au final, et j'ai pas été au bout du truc, j'ai laissé tomber. Donc voilà, donc si jamais l'idée tente quelqu'un, vous pouvez me récupérer le nom de domaine, ça me fera plaisir. En tout cas c'est un modèle économique qui peut fonctionner. Par contre voilà, c'est du boulot quoi, d'écrire un guide de voyage. Je vous assure que c'est du boulot, moi je le sais parce que je sais ce que je fais sur Roadcalls, et ça me prend beaucoup de temps déjà en français, donc en plus si vous voulez le faire pour toucher le marché anglophone, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas c'est un modèle qui fonctionne et que vous pouvez tenter également. Alors, y a d'autres solutions. Hein. Si le blog, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, vous pouvez monter une entreprise en ligne qui ne soit pas du tout liée à un blog. Vous pouvez, par exemple, monter une plateforme e-commerce de produits physiques. Par exemple, pour devenir une sorte d'intermédiaire, si vous voulez. J'ai pensé à un truc aujourd'hui, je me suis dit, à mon avis, si je lance ça, ça va cartonner, mais par contre, c'est du boulot, et aujourd'hui, j'ai trop de projets sur le feu pour me lancer là-dedans, mais j'ai pensé à un truc tout con. Il y a énormément de salons de coiffure qui se créent aujourd'hui en France, qui s'ouvrent tous les jours en France, et ils ont besoin d'acheter des fournitures. Ils ont besoin d'acheter des ciseaux, des bacs pour évacuer l'eau, ils ont besoin d'acheter plein de matériel, des sièges, des machins, des tables, des magazines, 3 millions de trucs, et ils passent énormément de temps à contacter plein de fournisseurs différents. Ils vont passer par un fournisseur pour acheter les ciseaux, un autre fournisseur pour acheter les produits d'entretien, les produits de cheveux, le shampoing, etc. Un autre fournisseur pour autre chose, etc. etc. Moi je me suis dit, pourquoi pas monter une boîte où c'est moi qui achèterais, donc une sorte de kit en fait, kit salon de coiffure, j'achèterais tous les produits dont tous les coiffeurs ont besoin en un seul kit, et eux, au lieu de passer par 50 fournisseurs, ils passent par un seul fournisseur, qui est moi, et moi je refourgue tous les produits en un seul fois. En fait, moi je fais l'intermédiaire, si vous voulez, entre les 50 fournisseurs dont les coiffeurs ont besoin, et les salons de coiffure qui veulent se lancer le plus vite possible et qui n'ont pas envie de passer du temps, à passer des coups de téléphone, etc. Ça, c'est très possible de le faire de manière dématérialisée. Donc alors, quand je dis dématérialisée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de produits physiques. Hein. Vous vendez des produits physiques, simplement ce qu'il faut trouver, c'est un endroit où stocker les produits et quelqu'un pour les envoyer. Donc ça veut dire qu'il faut recruter du monde, ou alors il faut passer par des intermédiaires, des entreprises qui sont spécialisées dans la logistique, qui vont faire ça. Donc voilà, c'est tout à fait possible de créer une plateforme e-commerce de produits physiques comme ça. Donc déjà, je vous ai balancé l'idée, c'est une idée que j'ai eue comme ça aujourd'hui, je me suis dit, je pense que ça peut cartonner, mais il y a plein d'autres possibilités, et c'est à vous de réfléchir, à vous d'avoir peut-être à un moment donné un truc qui fait tilt et qui vous ferait dire waouh, ah ouais, c'est génial, et de vous lancer tout simplement. Après c'est ça, hein, c'est une question de se lancer et puis d'affiner sa stratégie au fur et à mesure qu'on avance. Deuxième option, ça va être de créer une plateforme de mise en relation pour des services. Comme ça, ça vous parle peut-être pas, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Airbnb, je pense que tout le monde connaît Airbnb parmi vous, et c'est une entreprise qui cartonne, c'est une entreprise qui est 100% dématérialisée, c'est un site internet, vous rencontrez jamais les gens d'Airbnb, en tout cas je vois pas comment c'est possible de rencontrer quelqu'un d'Airbnb. Ils mettent simplement en relation les gens qui ont un appartement à louer et les voyageurs qui cherchent un appartement ou rester dans une ville le temps de quelques nuits pour visiter l'endroit où ils se trouvent. Vous pouvez très bien imaginer de créer un site similaire à Airbnb ou dans un autre domaine, hein, mais voilà, qui mettrait les gens en relation. Un truc auquel j'avais pensé un jour, moi j'avais besoin, alors c'est un truc vraiment complètement con, j'avais pensé à ça il y a un paquet d'années, mais je me suis dit que ça pourrait cartonner, c'est de mettre en relation des gens qui ont besoin d'outils de jardinage. Par exemple des tondeuses ou des sécateurs ou ce genre de machin, parce que c'est pas une tondeuse, c'est pas forcément un truc qu'on s'en sert pas forcément tous les jours, quoi. On tond son jardin, je sais pas, toutes les 2-3 semaines, un mois, je sais pas exactement d'ailleurs, mais on en a pas besoin tous les jours. Donc acheter une tondeuse quand c'est pour s'en servir entre 6 et 12 fois dans l'année, ça peut coûter très cher et c'est pas forcément très rentable. Et ce qui peut être intéressant, c'est de créer une plateforme où les gens par quartier pourraient mettre en commun les tondeuses, les sécateurs, les outils de jardinage. Alors, je connais pas beaucoup d'autres, je sais que ces deux-là. Et à chaque fois que quelqu'un passe pour louer la tondeuse chez un particulier ou chez un autre, vous touchez une commission. Voilà, vous pouvez très bien imaginer un système comme ça. Vous pouvez imaginer ça pour la location de vélos entre particuliers, pour plein de trucs. Il suffit simplement d'avoir la bonne idée. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément le plus simple, c'est vrai. Mais c'est tout à fait possible de trouver une idée, de se lancer, ça va cartonner. Et c'est des business, donc celui-là et puis la vente de produits physiques via un e-commerce, vous n'avez pas besoin de blog pour que ça fonctionne. Donc vous évitez pas mal de choses liées au blogging, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Enfin, il y a quelques principes sur lesquels je voulais revenir pour être vraiment libre. C'est des principes que moi je m'applique et que je vous recommande de vous appliquer si jamais vous avez vraiment envie d'être libre à 200%. Le premier principe, c'est que moi je m'applique, et c'est un critère fondamental dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est de ne plus jamais vendre mon temps. Aujourd'hui, les gens vendent leur temps dans 99% du temps. Ce que j'appelle vendre son temps, c'est quoi? C'est simplement échanger des minutes ou des heures contre de l'argent. C'est typiquement ce qui se passe quand on est salarié. On est salarié, on va bosser 35 heures. Et à la fin du mois, on reçoit un salaire, une certaine somme. Moi, c'est un truc que je veux plus faire parce que je considère que pendant que j'utilise mes 35 ou mes 40 heures par semaine, je peux pas faire autre chose. Moi, ce que je veux, c'est dissocier le temps que je passe à travailler et les revenus que je puisse avoir. Et pour ça, le deuxième principe que j'ai, c'est de vendre un produit qui soit duplicable à l'infini. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin et c'est pour ça que dans mon activité auparavant d'attaché de presse indépendant, je continue, que je prends toujours de temps en temps des contrats, mais uniquement sur les projets qui m'intéressent vraiment. J'ai créé une formation aux relations presse en ligne qui permet justement aux entrepreneurs d'apprendre les relations presse pour écrire eux-mêmes leurs communiqués de presse, leurs dossiers de presse, etc. Et j'ai fait ça pourquoi ? Pour une raison toute simple, c'est que je me rendais compte que je vendais mon temps auparavant. Je vendais du temps, je vendais des conseils, donc du consulting en relations presse, en stratégie de communication. Mais, je travaillais 10 heures, les clients me facturaient, enfin je facturais aux clients 10 heures de travail et puis les 10 heures c'était terminé, point barre. Si je voulais avoir de l'argent supplémentaire qui rentre, il fallait que je prenne un nouveau contrat, que je retravaille 10 heures ou plus, et ainsi de suite. J'avais pas moyen de capitaliser sur ce que je créais en fait. Et c'est de là que je me suis dit, merde, si jamais je veux vraiment capitaliser sur mes créations, il faut que je vende, que je crée un produit qui soit duplicable à l'infini, un peu comme les chanteurs qui vont enregistrer un disque et qui vont le vendre soit 1000 fois, soit 1 million de fois, un écrivain qui va écrire un bouquin, le publier, et qui va peut-être se vendre entre 100 et 100 000 exemplaires, et ainsi de suite. Voilà, moi c'était ça mon critère, c'était de vendre un produit duplicable à l'infini pour être vraiment libre de mon temps justement, parce que je travaille une fois, j'utilise du temps une fois et derrière je peux vendre à l'infini. Le troisième principe, c'est de ne pas trop dépendre des autres, mais de savoir déléguer. Il y a des tâches sur lesquelles on apporte de la valeur ajoutée. Moi, typiquement, c'est quand j'écris mes articles, je sais que j'apporte de la valeur parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément capable de le faire et tout le monde n'a pas aussi le vécu que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce document, ça fait plus de 3 ans, ça doit faire quasiment 3 ans et demi que je suis en voyage permanent. Même si là, je suis en France au moment où j'enregistre ça. Je suis rentré en France fin d'année 2014 et pour l'instant, je suis pas reparti justement parce que je suis en train de mettre un nouveau projet en place en ce moment en Normandie. Je vous en reparlerai peut-être prochainement sur le blog. Voilà, l'idée c'est donc de ne pas trop dépendre des autres, mais de savoir déléguer sur les tâches où vous n'apportez pas de valeur ajoutée, ou alors vous n'êtes pas trop compétent, ou alors vous passeriez énormément de temps pour obtenir un résultat que quelqu'un de compétent obtiendrait en quelques clics. Typiquement, moi ça pourrait être sur le design de mes sites internet. Je les ai fait tout seul, vous voyez, c'est pas des designs de fou, c'est des trucs assez minimalistes, assez simples, mais si jamais je voulais quelque chose de superbe, je me ferais pas chier à apprendre le design, j'embaucherai quelqu'un pour le faire, ou je prendrai un freelance ou quelque chose comme ça pour le faire pour moi. Donc savoir déléguer pour gagner du temps libre, justement. Enfin, quatrième point, il faut se dire dès le départ que tout va pas forcément marcher dans ce que vous allez faire. Il y a forcément des moments où vous allez échouer, et si vous échouez, il faut savoir rebondir. Ça, c'est vraiment important pour rester libre, c'est être capable de rebondir derrière un échec. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans une entreprise, qui vont se planter, parce que ça arrive, c'est même très fréquent de se planter dans un projet d'entreprise, et qui vont se dire, bon bah c'est mort, ça marche pas, je laisse tomber, et qui vont perdre leur liberté de temps pour à nouveau repartir dans le salariat et redevenir prisonnier de la matrice ou ce genre de choses, et qui vont pas être capables de rebondir derrière. Et ça, c'est dommage, il faut vraiment se dire dès le départ que l'échec est une possibilité. C'est possible, ça peut arriver, et donc il faut être préparé, et il faut savoir surtout comment faire pour rebondir derrière un échec. Enfin, dernier point le plus important, c'est que quand on se lance dans une entreprise dématérialisée, qu'il s'agisse d'un blog, ou d'un projet e-commerce, ou d'un projet de mise en relation entre particuliers ou entre entreprises, comme les services dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut être prêt à prendre des risques, il faut être prêt à se lancer, il faut être prêt à oser. C'est ça le maître mot de tout ce que je viens de vous dire. Il faut mettre les couilles sur la table, si je puis me permettre, et il faut se lancer, il faut oser. Hein, c'est ça l'idée. Et si vous osez, vous allez peut-être vous planter, vous allez peut-être réussir, mais dans tous les cas, vous allez avoir essayé quelque chose, et vous ne serez pas resté les bras croisés à attendre qu'une solution miracle vous tombe dessus, à attendre d'hériter d'un oncle ou d'une tante éloignée qui va vous permettre de voyager pendant quelques mois derrière. Ça peut arriver, on sait jamais, hein, mais c'est pas vraiment sur ça qu'il faut compter si vous voulez vraiment partir en voyage. Si vous voulez partir en voyage et être vraiment libre à 200%, il faut monter une entreprise en ligne dématérialisée, il faut se lancer, et c'est parti, et il faut vraiment y aller, quoi. Le jeu en vaut vraiment la chandelle, ça serait dommage. Si vous en avez la possibilité, si vous en avez l'envie, si vous n'avez pas de... si vous n'avez pas, je sais pas, si vous avez des enfants, c'est vrai que monter sa boîte, c'est plus compliqué, parce qu'on implique des gens derrière soi, c'est pas forcément très simple. Mais si vous êtes tout seul, ça peut valoir vraiment le coup de tenter votre chance. Voilà. En guise de conclusion à ce document, qui est beaucoup plus long que ce que je pensais, là, ça doit bien faire une demi-heure que je parle. Si jamais ça vous intéresse vraiment à fond tout ça, ce que je viens de vous raconter, si jamais vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur tout ce qui est entreprise dématérialisée, se lancer dans l'aventure du blog, se lancer dans l'aventure d'une plateforme e-commerce ou de la création d'un service en ligne, hein, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur les techniques qui permettent vraiment derrière que ça fonctionne, c'est-à-dire attirer du trafic sur son site, déterminer un positionnement, que ce soit marketing ou éditorial, comment trouver ses premiers clients, comment nouer des partenariats qui vont vous rapporter de l'argent ou qui vont vous rapporter des clients ou des visiteurs, etc. etc. Si jamais tout ça vous intéresse vraiment, ce que je vous demande de faire, c'est de me le dire par mail, parce que si vous me le dites pas, je peux pas le deviner, donc je sais pas forcément sur quoi vous avez eu le plus de questions, sur les domaines qui vous intéressent le plus, donc n'hésitez pas vraiment, il suffit de cliquer sur répondre au mail que je vous envoie, et je lis tous les mails que je reçois. Alors je réponds pas forcément à tout le monde, c'est vrai que malheureusement j'ai pas forcément le temps de le faire, mais je lis 100% des mails que je reçois. Et si jamais je vois que suite à ce document audio, il y a énormément de gens qui sont intéressés et qui voudraient vraiment des conseils supplémentaires sur l'attraction de trafic, sur le positionnement marketing, sur nouer des partenariats, sur trouver ses clients, sur le fait de se lancer, même pourquoi pas sur des détails techniques, par exemple sur comment installer un WordPress, etc. N'hésitez pas, posez-moi vos questions par mail, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre, et même pourquoi pas de vous refaire un document audio comme celui-là, si ça peut vous aider, si ça peut vous faire avancer dans vos objectifs. Voilà, je suis vraiment ravi d'avoir enregistré ce petit document, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de document audio, la dernière fois ça devait être pour les cafés voyages. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez de nouvelles idées, que vous foisonnez d'idées d'entreprises à lancer pour partir en voyage. N'hésitez pas, même si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas à me les soumettre. Moi, c'est vraiment, enfin, le voyage, c'est une de mes passions, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment un truc qui m'éclate. Je pensais vraiment pas qu'un jour je deviendrais entrepreneur déjà, et je penserais encore moins que je m'y épanouirais autant. Donc, si vous avez envie de parler de création d'entreprise, n'hésitez pas. C'est vraiment un truc qui m'éclate, donc je me ferais vraiment un plaisir de vous filer un coup de main là-dessus et d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment une très très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur Road Calls. Ciao.